100% d'Europe, Laurent Berthaud.
Is kilenc, nyolc, hét, hat, öt, négy, három, kettő, egy.
Bonjour à tous et à toutes. Ce vénérable quotidien hongrois devait fêter ses 80 ans cet été. Il n'en aura pas l'occasion. Le journal Magyar Nemzet a publié son ultime numéro le 11 avril dernier. Une décision prise par son propriétaire, un ancien oligarque tombé en disgrâce, 3 jours à peine après la réélection du Premier ministre Viktor Orban. Le reportage de Florence Labruyère aux dernières heures du quotidien.
Beaucoup de collègues travaillent ici. Nous avons peut-être 100 journalistes chez la Magyar Nemzet.
Dernière journée de travail pour la rédaction du Magyar Nemzet. Une rédaction sous le choc. 48 heures après la victoire de Viktor Orban aux législatives, le propriétaire du quotidien a décidé d'arrêter la publication.
On a eu une réunion à 10 heures ce matin. Le PDG et le rédacteur en chef nous ont dit que le propriétaire arrêtait de financer l'entreprise. Alors on prépare le dernier numéro. Sur la page de une, il y aura le chiffre 80 en grosses lettres. Parce que le Magyar Nemzet a 80 ans.
À la fin du socialisme, il n'y avait pratiquement plus de censure. Le Magyar Nemzet était un quotidien libre de ton, lu par la bourgeoisie et les intellectuels. Au début des années 2000, il est racheté par Lajos Simicska, le financier et l'ami de Viktor Orban. Le média vire alors à droite. Il ne retrouve sa liberté de ton qu'en 2015, lorsque les deux amis rompent les ponts. Devenu l'ennemi d'Orban, Simicska fait du Magyar Nemzet une voix critique, un média d'investigation sur la corruption du clan au pouvoir. Mais cela n'a pas empêché Viktor Orban de gagner les élections. György Zsombor, rédacteur en chef adjoint du Magyar Nemzet.
Dimanche soir, notre propriétaire a dit que le Fidesz, le parti d'Orban, avait de nouveau la majorité des 2/3 au Parlement. Et ça, malgré les articles percutants qu'on a publiés. Dans n'importe quel autre pays européen, ça aurait fait tomber un gouvernement ou des ministres.
Le Magyar Nemzet a ainsi révélé, preuve à l'appui, qu'un ministre avait eu accès à une mystérieuse somme de 4,5 milliards d'euros. Une somme énorme en Hongrie, équivalente au budget annuel de l'éducation. Le ministre n'a pas pu expliquer l'origine de cet argent.
Le propriétaire voulait dire aux Hongrois que ce gouvernement est une mafia qui vole l'argent public. Mais on n'a pas réussi à communiquer ce message. La majorité de la population n'a pas compris ce qui se passe dans le pays.
Le Magyar Nemzet n'a pas fait le poids face à l'empire médiatique du gouvernement Orban qui a imposé le thème omniprésent du danger migratoire. Le journal est une victime de la guerre entre le Premier ministre et son ancien allié. Selon certains journalistes, Simicska, le propriétaire du Magyar Nemzet, aurait anticipé la vengeance de Viktor Orban en sabordant le journal. Daniel Ranki, directeur du service photo.
Toute la rédaction savait qu'on était une cible. Bon, ce qui nous arrive, ce n'était pas une offre d'achat hostile, mais ça nous pendait au nez. Certains membres de la rédaction envisagent d'arrêter le journalisme. C'est le deuxième quotidien national qui ferme en 2 ans. Il y a de moins en moins d'air pour respirer, de moins en moins de vrais médias où on peut faire du vrai journalisme. Origo était un journal de haut niveau, mais il a été acheté par des amis du pouvoir et maintenant c'est une coquille vide. Finalement, c'est peut-être mieux qu'on ne subisse pas le même sort. Mais en même temps, il y a 100 personnes sur le carreau là.
Ce jour-là, la rédaction reçoit la visite d'un lecteur, Akos Badash. Il a entendu la nouvelle à la radio, mais il n'arrive pas à croire que son journal va cesser de paraître.
Je suis un lecteur assidu du Magyar Nemzet. Quand j'ai entendu que le dernier numéro paraissait demain, la moutarde m'est montée au nez. Ça me met en colère. C'est un bon journal. Et il faudrait qu'il disparaisse simplement parce qu'il critique le gouvernement.
Mais le plus étonnant est que ce fidèle lecteur du Magyar Nemzet est aussi un électeur de Viktor Orban.
Je vote pour le Fidesz parce que je trouve que Viktor Orban est bien plus sympathique que tous les politiciens d'opposition. Bon, il faudrait qu'Orban fasse un peu le ménage, c'est vrai, dans son camp. Il y a des affaires, pas claires. Mais j'ai lu les programmes des partis d'opposition, j'ai rien trouvé de bien. Guy Orsani, le président des socialistes, il veut faire venir des migrants.
Quelques jours plus tard, la rédaction publie un numéro spécial intitulé « Samizdat, Magyar Nemzet ». Un numéro pour garder le contact avec ses lecteurs. 40 000 exemplaires sont distribués dans la rue. Katalin Klotschko est venue chercher le sien.
Ce journal qui existait depuis 80 ans est mort à cause d'une guerre entre son propriétaire et Viktor Orban. J'aimais beaucoup ce quotidien, il disait la vérité. Et voilà, c'est fini. 90% des médias hongrois sont entre les mains du gouvernement. Et maintenant, la vérité, si l'on peut dire, sortira seulement de la bouche du gouvernement. Ça me rend très triste.
Malgré tout, l'équipe du Madyar Nemzet veut garder le moral. On parle d'un éventuel rachat du journal par un investisseur. La rédaction prépare aussi un projet de financement participatif pour sauver le site internet du quotidien. So I have to decide if it's so going to last. I got the in the round
blues, yeah. Believe or stay blues. 3 millions d'Européens vivent au Royaume-Uni, jusqu'alors du moins, car après le vote du Brexit, par crainte du futur ou parce qu'ils se sentent de moins en moins bienvenus, ils sont nombreux à quitter le pays. Nous allons entendre le témoignage d'une jeune Française qui a tiré un trait sur sa vie britannique pour cause notamment de Brexit. Mais tout d'abord, Marie Billon, donnez-nous une idée de l'ampleur de ce mouvement qui toucherait plusieurs milliers de personnes.
Ça ressemble au titre d'un film d'horreur hollywoodien, The Departing. Ceux qui sont vont. C'est comme ça que l'hebdomadaire The Spectator appelle ces Européens qui plient bagages à cause de la sortie programmée du Royaume-Uni de l'Union. Beaucoup sont surpris de se sentir toujours aussi peu les bienvenus au Royaume-Uni, près de 2 ans après le vote. Mais les titres agressifs dans la presse et la verve des pro-Brexit font perdurer cette impression. La manière dont les négociations sont menées ne les rassure pas non plus. Theresa May a été forcée de préserver les droits des Européens au Royaume-Uni jusqu'en 2021. D'ici là, tous ceux qui seront déjà dans le pays pourront qualifier pour la résidence permanente ou un statut équivalent. Mais après, les Européens seront des immigrés comme les autres, soumis donc à la nécessité de remplir des critères drastiques pour obtenir un visa. Voilà pour le scénario le plus optimiste. Mais si les négociations du Brexit échouent, Theresa May n'est plus tenue par le statut que Bruxelles a réussi à négocier pour les ressortissants européens. La situation est donc trop précaire, juge-t-il. Mais pour l'instant, l'exode est surtout visible profession par profession. Les universitaires sont parmi les plus nombreux à partir. Ils sont 1300 à avoir quitté le Royaume-Uni l'an dernier. Rajoutez à cela environ 1000 ressortissants de l'UE autres que professeurs, travaillant pour le secteur de l'enseignement supérieur. Cambridge, l'une des universités les plus prestigieuses du pays, a perdu à elle seule 184 Européens. Ils sont partis parce qu'ils ont peur que les équivalences entre universités européennes ne fonctionnent plus après le Brexit, que leur expérience n'ait plus de valeur. Même chose pour les scientifiques, pour les docteurs et surtout pour les infirmiers et infirmières européens. En un an, ils ont été 67% de plus à quitter le registre national. Un point commun à tous ces départings, ils sont persuadés que l'économie britannique va souffrir du Brexit. Alors finalement, pourquoi rester ? Le problème, c'est que ceux qui ont des économies au Royaume-Uni n'ont pas envie de les bouger, la livre ayant perdu plus de 10% de sa valeur face à l'euro depuis le référendum.
Quitter le Royaume-Uni, c'est donc le choix qu'a fait Sophie, 30 ans, après 8 années passées sur le sol britannique. Même si son choix n'a pas été uniquement motivé par cette annonce politique, la décision du Royaume-Uni de quitter l'Europe a largement contribué à son départ. Dans le bar bien nommé Paris-London, elle a expliqué à Frédéric Lebel comment ce choix avait finalement pris corps à partir de la campagne pour le Brexit.
À l'époque, j'étais partie de Londres, je vivais dans la campagne britannique, et là, c'était assez intéressant parce qu'en fait, le parti, notamment le UKIP, qui votait pour la sortie de l'Europe, ne se cachait même plus. Donc il y avait beaucoup d'affiches, des affiches assez criardes, un peu partout, le long de la route, avec des slogans qui étaient assez choquants pour moi en tant qu'expat. Donc « Claim our country back », c'est un peu « Récupérons notre pays ». Donc on leur a pris une partie de leur identité ou une partie de leur pays. Et c'était des affiches assez agressives. Et par exemple, en parlant avec de la famille et des amis à Londres, ils ne voyaient pas du tout ça. Ce genre d'affiches n'avait pas lieu d'être. Justement, les gens allaient les décrocher, alors qu'à la campagne, on en voyait beaucoup plus.
Est-ce que à certains moments, vous vous êtes sentie justement vraiment étrangère ?
Malheureusement, oui. Donc à l'époque, je travaillais dans un café, par exemple. Et donc, il y avait 2 jeunes hommes assis à la terrasse, voilà. Et moi, je viens leur servir un café, ils entendent mon accent. Et tout de suite, on commence à parler de ça. Et j'entends des choses du style, mais vous, de toute façon, vous allez bientôt rentrer chez vous. Pas des messages très agréables. Donc oui, il y a eu quelques moments où je me suis sentie étrangère, c'est sûr.
Et le 23 juin 2016, donc, les Britanniques votent à 52% pour la sortie de l'Union européenne. J'imagine que c'est un jour dont vous vous souvenez.
Oui, ouais, ouais, ça a été un vrai choc. Donc j'étais à l'époque avec j'avais un homme anglais et il m'avait dit non, ça ne passera pas. Et on s'est réveillés et un gros coup de massue, une tristesse profonde, mais vraiment. Lui était très choqué, moi aussi, une envie de pleurer et un désarroi. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et même lui ne comprenait pas. Et ensuite, je suis allée au travail et là, mes amis anglais m'ont serré dans leurs bras. C'était vraiment, il y a eu beaucoup d'amour, beaucoup de tristesse, mais ouais, il y a eu un genre d'élan d'amour. On vous aime encore, quoi. C'était, ouais.
Et vous vous disiez que ça allait être difficile de rester, déjà ?
Oui, sur le coup, ça m'a blessée parce que c'était la première fois en 8 ans que je ne me sentais plus la bienvenue. C'est 8 ans dans un pays, on se sent, je me sentais presque plus anglaise que française. Je m'étais adaptée à la culture, voilà. Et d'un seul coup, de se dire, on ne fait plus partie de l'Europe. Et est-ce que moi, je veux rester dans un pays qui ne fait plus partie de l'Europe ou qui ne fera plus partie de l'Europe à un moment ? C'était blessant.
Et vous aviez l'impression que vous ne pouviez plus vivre sereinement au Royaume-Uni ?
Si, je pense que vivre sereinement. Sur le coup, il y a eu le choc de la nouvelle. Il y a eu 2-3 remarques désagréables, mais il y a aussi eu beaucoup de témoignages d'amour. Je me suis posé des questions sur la sécurité de l'emploi. Donc à ce moment-là, j'étais en transition, donc je n'avais pas un emploi sur le long terme. Et je me suis demandé, est-ce que voilà, le recrutement dans une nouvelle entreprise, est-ce que ça va être plus difficile ? Est-ce que mon CV va être jugé plus durement parce que, bah parce que je n'ai pas la nationalité anglaise, je n'ai pas la carte de résidente permanente ? Et je me suis demandé si ça allait mettre un peu des bâtons dans les roues, alors que tout avait été très très simple depuis mon arrivée. Vraiment aucun problème, aucune discrimination. Donc oui, je me suis demandé si les choses allaient être un peu plus difficiles pour moi après le Brexit.
Depuis, il y a eu pas mal de discussions qui se sont engagées entre Londres et Bruxelles. Et notamment sur le devenir de ces 3 millions d'Européens qui vivent au Royaume-Uni, avec la garantie qu'ils pourront obtenir le statut de résident permanent. Et ça, c'était pas une option ?
Si, c'était une option, et je l'ai considéré. J'ai certains amis qui l'ont fait. Il y a beaucoup de paperasse, et moi, c'est ça qui me gênait un petit peu, l'idée de me dire, bon, ça fait 8 ans que je suis dans le pays, que je participe... et maintenant, je dois justifier ces 8 années et je dois remplir des dossiers. Et bon, je me suis dit non. Dans ce cas-là, j'irai. C'est le bon moment pour rentrer, peut-être.
Et le départ, il a été douloureux.
C'était une page de vie qui se tourne. Oui, c'était un peu douloureux parce que je suis très attachée à la culture anglaise quand même. J'y ai passé 8 très belles années. On est différents, mais moi, je les adore sur plein de points. Et donc. Ça a été un pincement au cœur, mais pas de nostalgie aucune. On continue d'avancer et puis tout va bien. Et on, voilà, j'en garderai de très bons souvenirs. Quoi.
Sophie, une jeune Française qui vient de quitter le Royaume-Uni au micro de Frédéric Lebel. Quitter la gare d'Ankara en Turquie pour se retrouver 24 heures plus tard à la frontière arménienne à l'est. Voilà ce que permet le Doğu Ekspresi, le petit Orient Express turc. Le vénérable train sera bientôt remplacé par un TGV, ce qui explique peut-être un regain d'intérêt. 300 000 voyageurs l'ont emprunté en 2016, 40% de plus que l'année précédente. Anandlower.
Pour la plupart des Turcs, le Doğu Ekspresi, mot à mot l'Orient Express, n'évoque pas un train luxueux traversant l'Europe d'ouest en est et qui servi de décor à un grand roman policier. Moins glamour, mais tout aussi des paysans, le Doğu Ekspresi des Turcs emmène ses voyageurs d'Ankara, la capitale située au centre de l'Anatolie, jusqu'à Kars, 24 heures plus tard et 1300 km plus à l'est, à la frontière avec l'Arménie. Cette ligne ferroviaire existe depuis des décennies et pourtant, ces deux dernières années, les Turcs semblent la redécouvrir, à en juger par le nombre de photos qu'elle suscite sur Instagram et par les chiffres officiels de la compagnie des chemins de fer, la TCDD. L'an dernier, 300 000 voyageurs l'ont emprunté, 40% de plus qu'en 2016. Cet engouement est surtout celui de jeunes citadins de l'ouest de la Turquie, avides d'aventures entre amis, de découvrir l'Anatolie et de beaux paysages, surtout lorsqu'ils sont enneigés. La ligne est donc très populaire en hiver, mais elle fonctionne toute l'année. Il faut aller vite pour prendre ses billets, épuisés dès leur mise en vente, à tel point que la TCDD a dû ajouter des wagons, passés de 5 à 11, pour ne pas faire trop de déçus. Si le train traverse les vallées de Sivas ou les montagnes d'Erzincan et d'Erzurum, il ne s'arrête que 5 minutes dans chacune de ces villes, lesquelles ne profitent pas vraiment du succès de la ligne. Le terminus, Kars, en revanche, voit arriver chaque jour des centaines de touristes qui visitent sa citadelle ou le site d'Ani, ancienne capitale du royaume d'Arménie, et ses églises légendaires. Mais le voyage lui-même reste l'attraction principale et ces jeunes passagers ont rapidement créé de nouvelles traditions, comme celle de décorer leur compartiment avec des guirlandes lumineuses, des bougies et des ballons, ou d'improviser des fêtes au milieu des wagons-lits. Puis de partager tout cela sur les réseaux sociaux, bien sûr.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Laurent.
Votre proposition musicale aujourd'hui, un certain Cosmo Sheldrake.
Oui, c'est un jeune londonien aux idées larges qui publie son premier album, mais que les radars pop avaient déjà signalé ces quatre dernières années avec une série de chansons où l'on pouvait entendre des sons que l'anglais avait glanés un peu partout dans le monde. Un projet en accord parfait avec sa formation en anthropologie et en ethnomusicologie, mais aussi avec son engagement écologiste, puisque Cosmo Sheldrake fait également partie d'une troupe de théâtre pour laquelle il compose et qui entend sensibiliser le public au réchauffement climatique. Son album est traversé par de jolies influences qui vont de la pop des années 60 à la musique classique du 20e siècle, avec des orchestrations que le musicien a conçues et enregistrées seul. La nature y est aussi cordialement invitée et il suffit de tendre l'oreille pour entendre des oiseaux chanter sur le titre que je vous propose, Wriggle.
Hey ho, where did you go? Did you wriggle or roll? Did you giggle or grumble? Thumb, thumb, from where did you come? Did you toddle or run? Did you skip, chip or stumble? Put some pickles on and play the Mellotron. Go down, let's go down, let's go down. Don't you wanna come down and drink along? Count to 21 and go and right or wrong and feed the pelicans.
Cosmo Sheldrake, la proposition musicale de Vincent Théval. À demain pour la suite de nos rediffusions estivales.
Go down, let's go down, let's go down. Don't you wanna come down? Count to 20, go and right to wrong, and feed the pelicans.